va lire dans le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi, mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin, le corps sera saisi de mes gras succulents. Et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent à ma mort, et qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés au tranchant de l'épée. Que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui dans leur serment prennent Dieu à témoin s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close.
La Bible contient beaucoup de psaumes plus beaux les uns que les autres. Et sans aucun doute, ce psaume 63 que nous venons de lire a pleinement sa part parmi ces hymnes les plus magnifiques de l'Écriture, avec ces paroles qui se gravent d'elles-mêmes dans nos cœurs. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Et ainsi de suite. Voici des paroles magnifiques pour nous à recevoir au cœur de ce mois d'août et de ce temps de vacances. Mais pour autant, sachons-le, lorsque David a écrit ces paroles, lui n'était pas en vacances. On l'a lu, il était dans le désert de Juda, mais celui-ci n'était pas encore un lieu de villégiature très prisé. Non, en fait, David était en train de fuir parce qu'on cherchait à le tuer. Alors les spécialistes hésitent pour savoir exactement à quelle période de la vie de David ce texte fait référence. Il y a deux possibilités, ou bien il remonte à l'époque où David fuyait face au roi Saül qui voulait l'éliminer, vous lirez cet épisode dans 1 Samuel 23, ou bien il nous parle de la période où David fuyait devant Absalom, son propre fils, et devant le coup d'état de celui-ci. Vous lirez ça dans 2 Samuel 15. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que la période pendant laquelle David a composé notre psaume était vraiment un temps difficile pour lui. Et c'est en plein cœur de ce temps difficile qu'il vient prononcer donc ces quelques mots d'une immense beauté, ces mots de consécration à Dieu, d'amour pour Dieu, de confiance en Dieu. Et des mots, je crois, qui résonnent encore aujourd'hui, quelques 30 siècles plus tard. Oui, des mots qui résonnent dans nos périodes difficiles, dans nos propres déserts, mais tout simplement, en fait, des mots qui résonnent au cœur de chaque période de notre vie, et même donc au cœur de ce mois d'août. Car, bien évidemment, c'est dans toutes les périodes de nos vies que nous sommes ainsi, comme ces paroles du psaume 63 nous y encouragent, appelés à nous tourner avec ferveur vers Dieu. Oui, ces versets nous montrent si bien ce lien que Dieu désire qu'il y ait entre lui et nous en tout temps. Et c'est donc là-dessus que j'avais à cœur de m'attarder avec vous aujourd'hui, et puis à la fin du mois également dans une deuxième partie. Je voulais qu'on puisse parler de notre lien avec Dieu au quotidien. Ce matin, je vous invite d'abord à regarder comment ce psaume nous encourage à considérer ce lien. c'est-à-dire à considérer Dieu et notre manière de nous approcher de Dieu. Dans quel état d'esprit sommes-nous appelés à faire cela? Dans quel rapport à Dieu? Et nous allons faire ressortir trois mots de notre psaume, trois mots qui viendront nous aiguiller dans notre façon de venir à Dieu jour après jour. Le respect, la priorité et l'intimité. Et puis la prochaine fois, dans une deuxième prédication, une fois que nous aurons vu ce cadre, si on peut dire, nous verrons en trois autres mots comment ensuite entretenir ce lien au quotidien. Et nous verrons notamment que David nous invite ici à trois attitudes particulières pour cela. Réfléchir sur Dieu, chanter à Dieu et se réfugier en Dieu. Trois pratiques du quotidien pour enrichir la beauté de notre lien avec le Dieu de l'infini. Voilà pour le programme. Mais nous démarrons donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, avec cette première question. D'après l'exemple de David, dans quel état d'esprit suis-je invité à m'approcher de Dieu en toutes circonstances? Et en fait, je crois que ce sont les toutes premières paroles de notre psaume qui vont nous permettre de répondre à cette question et nous donner nos trois directions ce matin. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je crois qu'il y a pour nous dans cette simple phrase, selon là où on va mettre l'accent, trois vérités à comprendre, à saisir et à vivre quand nous venons à Dieu. D'abord, nous lirons de la manière suivante. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est-à-dire en insistant sur les deux premiers mots. Ô Dieu. À ne pas confondre d'ailleurs avec Ô Dieu, écrit O-H. Vous me suivez? On n'entend pas la différence quand on le dit, mais pourtant la différence de sens y est. Ô Dieu avec O-H viendrait plutôt traduire chez nous une sorte de plainte, un appel au secours, chose qui a bien sûr aussi toute sa place. Mais ô Dieu, comme ici, avec l'accent circonflexe, veut plutôt exprimer la grandeur de Dieu. Et avec elle, donc, le respect que nous sommes appelés à avoir quand nous nous approchons de ce Dieu si grand. Ô Dieu. Notre Dieu est le Dieu de l'infini, incommensurablement grand et puissant. Il est le créateur de l'univers, de la moindre particule de l'univers. Il est le Dieu qui peut tout, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui soutient tout. Et il est également le Dieu saint, le juste juge, la référence en toutes choses. Oui, notre Dieu est un être immensément grandiose et immensément au-dessus des petites créatures que nous sommes. Écoutez juste la description qui est faite de lui, de Jésus en fait, Dieu le Fils, au tout début de l'Apocalypse de Jean. C'est Jean qui parle donc. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix, et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Et la description commence. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Oui, et peut-être n'en avons-nous pas toujours assez conscience. Mais oui, Dieu n'est pas n'importe qui. Et quand nous entrons à sa présence, quand nous le prions par exemple, nous ne nous adressons pas à n'importe qui. Et de nombreux passages de la Bible mettent en avant cette réalité et veulent nous faire réfléchir sur notre façon de venir à Dieu. Je pense juste à Hébreux 12, 29 par exemple. Je le lis. « Servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, dit l'auteur, avec soumission et respect, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Nous sommes appelés à respecter Dieu à cause de qui il est. Un auteur disait à propos de ce terme « ô Dieu » utilisé ici, « Lorsque je m'adresse à lui de la sorte, je comprends que j'entre dans la pièce où se situe son trône. Quel privilège, mais quelle énorme responsabilité !» Et notre psaume, deux versets plus loin, dit également « C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. » Oui, je le répète, nous sommes invités à nous approcher du Dieu trois fois saint, puissant et glorieux, avec le plus grand des respects. Ceci est la première bonne attitude à avoir. Mais alors, c'est vrai, on a quand même parfois un peu de mal avec cette idée. Non pas qu'on ne veuille pas respecter Dieu, bien sûr, mais plutôt parce que face à de telles descriptions de lui, plutôt que le respect, eh bien, c'est d'abord la peur qui pourrait surgir en nous quand nous venons à Dieu. Jean, d'ailleurs, après avoir eu cette vision, est pris d'une peur terrible, d'une angoisse terrible face à ce Dieu si grand. « Quand je le vis, dit-il, je tombais à ses pieds comme mort. » Oui, c'est vrai, la peur pourrait être notre première réaction naturelle. Mais croyons-le, ce n'est pourtant surtout pas ce que Dieu veut. Non, Dieu ne veut jamais que notre respect pour lui se transforme en peur. C'est pour cela d'ailleurs que le premier mot qu'il dit à Jean, comme à tous ceux à qui il apparaît dans sa gloire, est toujours « n'aie pas peur ». Mais alors du coup, on pourrait se demander comment ? Comment ne pas avoir peur quand nous venons face à un tel Dieu ? Eh bien, ce sera sans doute grâce à un autre passage clé de l'Écriture, toujours dans la lettre aux Hébreux, où il nous est dit « Approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. » Venons avec assurance, nous dit ce texte, car quand nous venons à Dieu, nous ne venons pas sur la base de nos propres mérites. Nous ne venons pas sur la base de qui nous sommes. Parce que là, oui, et il faut en avoir conscience, là, oui, on pourrait avoir peur face à ce Dieu saint. Mais quand nous venons à Dieu, nous venons sur la base des mérites parfaits et de la sainteté parfaite de Jésus-Christ qu'il nous permet de prendre pour nous. Et c'est ici une magnifique promesse à saisir. Je peux m'approcher de Dieu avec la plus grande assurance parce que j'y viens, porté par Jésus et par son œuvre. Et ainsi, grâce à cela, la peur n'a plus sa place. C'est une magnifique vérité, et c'est une magnifique vérité qui nous encourage d'ailleurs, entre autres, à être vraiment vrais quand nous venons à Dieu, puisqu'en Jésus, on se sait pleinement accueilli. Et donc, en particulier, c'est une vérité qui nous encourage à tout dire à Dieu, même notre colère, même notre sentiment d'injustice, même nos incompréhensions quand il ne répond pas à nos prières. Et David disait aussi ces choses-là. Mais parce que dire à Dieu tout ce qu'on a sur le cœur n'est pas un manque de respect, loin de là, c'est plutôt une vraie marque de confiance et d'assurance. Comme un fils bien-aimé a le droit de tout dire à son père tout en restant soumis à sa main souveraine. Oui, respectons notre Dieu dans la soumission, la paix et l'assurance de fils et de filles qui se savent parfaitement aimés de lui. Voici ce premier état d'esprit que nous enseigne ce psaume aujourd'hui. Et je continue, on continue de suite avec le deuxième. Ce sera celui de la priorité. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Voici, mine de rien, dans cette petite phrase, une véritable confession de foi de la part de David. David proclame ici que c'est Dieu qui est son Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a la première place dans son cœur. Nous voici devant une question de priorité. Tu es mon Dieu, toi et toi seul, et donc sous-entendu, personne d'autre ou rien d'autre. Tu es mon Dieu. Et ces quelques mots viennent naturellement nous interroger. Pour ce qui nous concerne, quel est notre Dieu ? J'entends pas juste celui qu'on confesse avec notre bouche, mais bien notre Dieu au concret de nos quotidiens. Qui a vraiment la première place dans nos vies et dans nos quotidiens ? C'est une question importante car on le sait, tellement de choses peuvent l'avoir cette première place. Ce pourrait être nos biens, notre bien-être matériel, même si on s'en défend. Mais on le sait, ces choses peuvent vite quand même avoir la première place dans nos préoccupations quotidiennes. Ce pourrait être notre ambition ou notre épanouissement personnel. Ce pourrait être des personnes comme notre conjoint ou nos enfants, par exemple. Ou ce pourrait être encore notre santé ou notre sécurité, et ainsi de suite. Oui, qui tient vraiment la place de numéro un dans notre vie ? Voici une question importante à discerner. Et alors, je me disais, pour nous aider peut-être à répondre en nous-mêmes avec honnêteté à cette interrogation, posons-nous cette autre question. Si demain, nous devions tout perdre sur cette terre, sauf une seule chose qui nous serait permis de garder, que choisirions-nous de garder ? Notre maison, notre famille, notre bonne santé, comme on le dit souvent au Nouvel An, tant qu'on a la santé, ou bien notre relation avec Dieu. Oui, que voudrions-nous vraiment garder s'il nous fallait choisir ? Parce que cette réflexion me semble justement être celle que se fait David au milieu de son désert. Lui, on s'en doute, qui n'a pas pu emporter beaucoup dans sa fuite. Il se demande aussi ce qui est le plus important. Et nous avons entendu sa réponse. Car ton amour vaut mieux que la vie. Et Jean Calvin, commentant ce verset, expliquait que dans ce mot « vie » était en fait réuni ici tout ce qui, aux yeux des hommes, a de l'importance. La santé, la sécurité, la richesse et tout ce que vous voulez. David proclame qu'être avec Dieu vaut bien mieux que tout cela. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu es mon Dieu. Voici face à nous des questions de priorité. Alors c'est vrai, de tels propos, je trouve, nous remuent toujours un petit peu. Nous qui ne pouvons que constater que trop souvent, nous mettons autre chose à la place de Dieu dans nos vies. Autre chose comme priorité au quotidien que son amour pour nous. Et c'est bien ici l'essence du péché d'ailleurs. C'est donc normal que ça nous remue parce que cela nous concerne tous, nous y sommes tous confrontés. Et je dirais même qu'il nous est impossible quelque part, à cause de ce péché qui est en nous, de prononcer avec une authenticité la plus parfaite ces mots « Tu es mon Dieu en toutes choses ». Et c'était aussi le cas pour David, soyons-en sûrs. Lui non plus, et on s'en rappelle, n'a pas toujours mis Dieu en premier face aux sirènes de la vie. Mais du coup, était-il hypocrite en composant ce psaume et en affirmant quand même une telle chose ? Non, je ne le crois pas, Pas plus que nous ne le sommes si notre cœur veut prononcer ces paroles tout en constatant nos limites à les vivre dans leur sens le plus absolu. Mais je pense qu'au contraire, à travers une telle confession de foi, David, conscient de ses manquements passés, présents et futurs, David voulait proclamer malgré tout la direction dans laquelle il voulait vraiment s'engager. Et donc oui, pour nous aussi, affirmer « tuer mon Dieu » veut dire que c'est vers là que nous voulons aller encore et encore. Que c'est l'horizon parfait vers lequel nous voulons marcher, progressivement, mais avec résolution dès aujourd'hui. Et c'est donc vraiment dans cet état d'esprit que nous sommes invités à nous approcher de Dieu. En apprenant jour après jour et chaque jour un peu plus à faire de lui et de notre relation avec lui le centre et la priorité de notre vie. Ô Dieu, tu es mon Dieu et je veux donc venir à toi chaque jour de plus en plus en accord avec cette vérité absolue. Voici notre deuxième point pour traduire ce à quoi notre lien avec lui est appelé à être. Et enfin, nous terminons avec le troisième et dernier point. M'approcher de Dieu avec respect, m'approcher de Dieu en priorité et à présent, m'approcher de Dieu avec intimité. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Avec l'usage, vous l'aurez noté, du pronom personnel possessif pour venir exprimer avec force cette idée d'intimité. Oui, cette volonté d'une profonde proximité avec Dieu est bien un des sentiments qui ne cesse jamais de ressortir du livre des psaumes. Quelques exemples. Psaume 23, bien connu. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Psaume 42. Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Et ainsi de suite. Nous avons parlé tout à l'heure de ce Dieu si grand, si impressionnant, ce Dieu qui imposait tellement le respect. Et voilà maintenant que David nous invite, que la Bible nous invite, à vivre une véritable intimité avec ce Dieu-là. Et même, encore plus que cette invitation, la Bible nous fait découvrir en fait que c'est Dieu lui-même qui aspire à cette intimité avec nous. Ce n'est pas juste un désir de David, c'est d'abord une volonté première de Dieu. Et l'Écriture foisonne de ces passages imagés qui viennent sans cesse décrire ce Dieu qui recherche cette relation profonde avec nous. Je vous en cite juste quelques-uns parmi d'autres. Des versets notamment de l'Ancien Testament adressés à Israël, mais qui s'étendent bien sûr aujourd'hui à chaque enfant de Dieu, à chaque personne qui a fait alliance avec Dieu par la foi en Jésus. Jérémie 31. Éphraïm est pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices. Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi, mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Quand on découvre que les entrailles de Dieu vibrent pour nous. Ou encore dans Ésaïe, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Non, mais même si les mères oubliaient leurs enfants, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Et enfin, un dernier texte dans Osée. Je serai ton fiancé pour toujours. C'est Dieu qui nous parle. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Et ainsi de suite, encore et encore. Des multitudes d'images pour nous montrer la profondeur de relation que Dieu, pour sa part, désire avoir avec nous. Et donc, face à cela, la question se pose, en est-il de même de notre côté? Avons-nous, en réponse à ce désir de Dieu, le même désir? Et dirons-nous comme David, « Tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi. » Et je lisais que le mot « languir » n'apparaît qu'ici dans l'Écriture, et qu'il désigne, je cite, « un désir ardent qui consume les dernières énergies d'une personne. » Oui, David se meurt d'envie d'être avec son Dieu. Aurons-nous les mêmes sentiments? Voudrons-nous vivre ainsi au quotidien? Si tel est le cas, nous verrons la prochaine fois quelques pistes que David nous laisse ici, pour justement entretenir de manière concrète la richesse de notre relation avec Dieu. Pour l'instant, je ne m'attarde pas encore sur le comment, mais je nous redis juste que c'est cela que nous sommes appelés à rechercher. « C'est toi que je recherche !» criait David. « C'est toi que je recherche encore et encore. » Eden Tozer, un pasteur américain de la première moitié du XXe siècle, qui a beaucoup écrit au sujet de l'importance pour le chrétien de vivre une relation proche de Dieu, nous interpelle et nous dit « Cher ami, ce n'est pas parce que tu as trouvé Dieu que tu dois cesser de le chercher. » Oui, c'est une réalité. Ce n'est pas parce que nous avons trouvé Dieu un jour que nous devons nous en contenter. Mais bien au contraire, cultivons cette rencontre. Persévérons à rechercher Dieu toujours plus, à rechercher la présence de Dieu toujours plus, au quotidien, en nous rappelant que lui-même nous fait la promesse suivante. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vivre une vie d'intimité avec Dieu, voici notre troisième et dernier point. Ainsi, pour résumer donc, nous l'avons vu. Le psaume 63 de David nous montre vraiment bien comment nous approcher de Dieu au quotidien de nos vies. Que ce soit dans nos prières, quand nous faisons monter notre voix vers lui, que ce soit dans notre lecture de la parole, quand nous nous mettons à son écoute, ou que ce soit à travers la communion fraternelle, quand ensemble nous nous présentons devant lui. Dans toutes ces situations, le psaume 63 nous dit comment faire, comment vivre ce lien avec Dieu. Je répète donc, vivre ce lien avec le plus profond respect d'abord, face à l'être incroyable qu'il est. Oui, venons à lui en disant « Ô Dieu, tu es si grand, si merveilleux. » Avec priorité ensuite, c'est-à-dire en apprenant à le mettre vraiment à la place qui est la sienne. « Ô Dieu, tu es mon Dieu. » Et puis enfin, dans une belle et profonde intimité. L'attitude de celui qui recherche avec ferveur la communion avec son Père. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Oui, alors que nous terminons ce matin, recevons ces paroles du psaume 63 comme un véritable encouragement pour nous à vivre une vie avec Dieu aussi riche que celle qui est décrite ici. Recevons ces paroles sans crainte, encore une fois, comme venant d'un Dieu d'amour qui permet par Jésus-Christ que nous puissions nous approcher de lui dans la paix. Recevons ces paroles également sans en être écrasés, en ayant conscience que notre lien avec Dieu est en développement progressif et que Dieu sait faire preuve de patience envers nous pour que ce lien se développe. Mais recevons aussi ces paroles avec cet ardent désir d'aller dans cette direction, et de rendre notre communion avec lui aussi profonde que ne pouvait l'être celle de David. Oui, au mois d'août ou durant tous les autres mois de notre vie. Oui, dans l'épreuve ou dans toute autre situation. Que Dieu nous fasse la grâce de vivre ainsi et qu'il en reçoive toute gloire. Amen.